Bon bec. Le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bon bec. Bon bec, c'est le seul et unique podcast francophone qui vous propose depuis 2019 d'explorer l'univers de la flûte à bec. Je suis Claire Secordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis flûtière. Et en plus de fabriquer artisanalement des flûtes à bec, je vous ouvre les portes de leur univers à 360 degrés. Bon bec, c'est votre rendez-vous régulier, chaque premier et troisième dimanche du mois, pour partir à la rencontre de notre instrument, de ses secrets, de ses fabricants, de ses interprètes, de ses scientifiques, de ses admiratrices et admirateurs, tout ça au travers d'épisodes consacrés à des sujets clés ou à des conversations inspirantes. Vous pouvez écouter Bon bec sur vos plateformes de podcast préférées, sur www.bonbec.fr et sur YouTube, et retrouver aussi des pistes d'exploration dans les notes de chaque épisode. Alors que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez ? Je suis ravie. Alors, comme d'habitude, vous allez me dire, parce que c'est vrai, je suis toujours ravie. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui ce court entretien avec Marie Hulsens. Nous l'avons enregistré en 2022, aux Journées de la flûte à bec organisées chaque année par l'association grenobloise L'Oiseau à Plumes. D'ailleurs, à propos d'oiseaux, il se peut que vous en entendiez en fond sonore parce qu'il faisait un temps magnifique ce jour-là et que nous n'avons pas pensé à fermer les fenêtres. Alors je suis d'autant plus contente d'avoir Marie sur cet entretien que nous n'avons pas souvent l'occasion de nous croiser et que ce jour-là, nous avions un emploi du temps vraiment chronométré. Et aussi parce que Marie est d'un tempérament plutôt réservé et je dois dire que l'exercice ne la mettait pas particulièrement à l'aise, cette idée de parler d'elle dans un micro. Donc je la remercie d'autant plus chaleureusement d'avoir accepté de se prêter au jeu. Vraiment, merci Marie. Alors Marie fabrique des flûtes depuis plus de 25 ans, après avoir passé son enfance dans l'atelier d'un certain Guido Hulsens. Et aujourd'hui, elle est installée en Espagne. À son catalogue, vous trouverez une belle variété de flûtes, évidemment les incontournables flûtes à bec baroques, mais aussi des flûtes médiévales et de nombreux modèles de flûtes à trois trous et de flûtes traditionnelles, notamment des régions du sud-ouest et d'Espagne, qui lui sont très demandées. Au cours de l'entretien, on a évoqué ses débuts, son orientation vers les flûtes traditionnelles. On a aussi parlé des réglages des instruments et d'un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi et qui, à mon sens, mérite qu'on s'y arrête, celui des flûtes dites d'études versus les flûtes dites de concert. Et je vous laisse aussi découvrir en fin d'entretien sa réponse à une de mes questions fétiches. Qu'est-ce qu'une bonne flûte ? Je m'arrête là, je vous laisse écouter cette conversation avec Marie Hulsens et je vous retrouve à la fin. Bonjour Marie.
Bonjour.
Je te remercie de participer à cet épisode.
Avec plaisir.
On est à Grenoble, journée de la flûte à bec. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu sur un salon. Voilà. Est-ce que tu es contente d'être là ?
Je suis très contente de retourner sur un salon. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et ça me donne envie de retourner sur plus de salons et de voir plus de musiciens.
Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter de la manière que tu souhaites ? Nous dire qui tu es.
Je suis Marie Hulsens, je suis la fille de Guido. Donc mon père est facteur de flûte depuis peut-être 40 ans déjà.
Et tu es aussi... Alors comment tu dis d'ailleurs ? Tu dis facteur, factrice, autre chose ?
Moi j'aime bien dire factrice de flûte, oui.
Ok. Moi ça me posait un problème de dire factrice. Parce que pour moi la factrice, c'est associé vraiment au courrier. Donc je cherchais un autre mot. Et puis j'ai trouvé, peut-être que tu as vu, je me suis dit que j'allais être flûtière.
Oui, j'ai vu ça ce matin. C'est curieux parce que mon père aussi, pendant longtemps, a utilisé ce terme de flûtier.
D'accord. C'était utilisé pour...
Enfin, je pensais que c'était lui qui l'avait inventé. Après, chaque personne peut inventer ce, comment il veut s'appeler.
Et alors, tu as appris le métier avec Guido, avec ton père ?
Oui. Quand j'avais 20 ans, je suis allée dans l'atelier. Enfin, j'avais fait des études de musique. Et je suis rentrée comme apprentie chez mon père. J'ai passé presque 10 ans, enfin 5 ans à temps plein. Après, j'avais un atelier chez moi et j'allais chez lui une semaine sur deux. Et au bout de 10 ans, j'ai quand même décidé que j'allais vendre mes propres flûtes avec ma propre marque.
Donc d'abord, tu as travaillé avec lui.
Oui, au début, je travaillais avec lui et pour lui.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des flûtes? Parce que parfois, on n'a pas envie de faire la même chose que ses parents.
Je n'avais pas forcément envie au début. Enfin, c'est pour ça que j'avais essayé de faire d'autres études, qui ne m'avaient pas convaincue non plus. Comme j'ai grandi dans un atelier, enfin, c'était quand même un endroit très familier pour moi. Et qui... J'avais envie d'être capable de faire la même chose que mon père.
Et donc, tu as commencé à vendre tes flûtes. Comment c'était au début, quand tu es arrivée
Au début, c'était... Enfin, j'étais pas très sûre de moi, on va dire. J'étais très surprise que les gens puissent acheter des flûtes à moi.
Et tu étais finalement la seule femme en France, à l'époque?
En France je sais pas.
Il y avait peut-être Claire Souberon.
Si, il y avait Claire Souberon.
Elle faisait des traversos essentiellement ou elle faisait encore des flûtes à bec?
Je crois qu'elle faisait encore des flûtes à bec.
Je ne
me rappelle pas très bien.
Maintenant, tu es installée en Espagne.
Oui, je suis partie en Catalogne.
C'est une raison liée aux instruments
ou... Non, pas du tout.
C'est juste personnel.
Parce que l'avantage d'être flûtier ou factrice de flûtes, c'est qu'on peut habiter où on veut finalement.
C'est vrai. Tu amènes ton atelier. Il ne faut juste pas déménager trop souvent.
Oui, c'est ça.
Et donc, quand tu as commencé, tu faisais essentiellement des flûtes à bec?
Oui, j'ai commencé avec les flûtes baroques, renaissance.
Et maintenant, tu es aussi très connue pour les flûtes à trois trous, les flûtes traditionnelles. Comment c'est passé?
Parce que j'ai fini par habiter dans les Pyrénées. Et là-bas, il y a une tradition très forte, assez importante. Les flûtes traditionnelles à trois trous. Ils ont une flûte qui est très intéressante parce qu'elle est... Elle est non tempérée. Enfin, elle a un tempérament traditionnel, on va dire. Un son très typique. Et là-bas, j'ai pu rencontrer des gens qui ont joué, aussi quelqu'un qui en fabrique, qui a fait beaucoup de recherches sur comment se fabriquaient les flûtes anciennes, les flûtes gasconnes anciennes. Et donc, je suis allée dans son atelier, il m'a montré tout ce qu'il avait étudié, enfin, toutes les archives qu'il avait, il m'a montré comment il travaille. Et donc, j'ai appris aussi avec cette personne... Une façon de faire des flûtes traditionnelles à trois trous.
Et alors, quelle est la différence entre la fabrication d'une flûte à bec et d'une flûte traditionnelle? Qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce qui est très différent?
Je crois que la flûte traditionnelle demande un peu moins de précision, on va dire. Moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de mystères aussi dans la fabrication des flûtes traditionnelles. Parce que, enfin, une flûte baroque ou renaissance, il y a beaucoup de gens qui ont déjà travaillé dessus, qui ont pu transmettre peut-être leur savoir. Il y a des règles assez précises, mais sur les flûtes traditionnelles...
C'est moins codifié, tu veux dire?
C'est encore un petit peu empirique. Enfin, les gens qui en font ne savent pas forcément pourquoi ils le font. Ils en font beaucoup qui ne marchent pas, et certaines qui fonctionnent, ils sont incapables de savoir pourquoi et d'améliorer celles qui ne fonctionnent pas.
Et en fait, ces flûtes traditionnelles, on peut les voir d'ailleurs sur ton site. Hein, j'ai regardé, il y a toutes les explications. On voit aussi tous les différents modèles. Est-ce que c'est juste cette idée que j'ai qu'elles sont à mi-chemin entre des flûtes à bec classiques, donc le terme n'est pas le bon, et des flûtes plus pastorales, comme fait par exemple Jean-Daniel Talma ou comme fait Jeff Barbe, qui sont ici aussi avec nous et dont on a déjà parlé dans le podcast. Est-ce que les flûtes traditionnelles sont à mi-chemin entre ces deux formes de lutherie?
Moi, je pense que les flûtes que font Jean-Daniel et Jeff sont complètement traditionnelles. Après, moi, je fais aussi des flûtes, les flûtes de Gascogne et des Pyrénées étaient en buis. Donc, moi, je les fais aussi en buis.
Elles sont tournées.
Donc, elles sont complètement traditionnelles aussi, finalement. Après, peut-être que je leur donne un son trop classique.
D'accord. Mais elles sont en bois tourné, déjà.
Oui, elles sont aussi en bois tourné.
D'accord. Et tu sais les jouer, toutes ces flûtes traditionnelles?
Oui.
Comment on apprend?
C'est pas très difficile, en fait. C'est assez empirique, enfin, c'est assez évident. On peut, en une semaine, je pense que si on est un flûtiste assez habitué à changer de flûte, on s'habitue à une flûte à trois trous. Après, c'est des mélodies qui sont simples, en principe. Et donc, l'intérêt du coup, c'est parce que les flûtes ne sont pas tempérées. Et ces mélodies aussi simples sont très jolies parce qu'elles ont un tempérament différent. Alors que si on les joue sur une flûte accordée, ça perd beaucoup de charme.
Et j'ai vu que tu as vraiment plein de modèles différents. Comment tu choisis? Comment tu trouves...
Mais en fait, ce n'est pas moi qui ai choisi. Parce que après, je suis allée habiter en Catalogne. Et donc, dans la péninsule ibérique, il y a des traditions de flûtes à trois trous traditionnelles dans chaque région. Ils ont des flûtes très différentes. Et les gens, petit à petit, ont vu que je faisais des flûtes. Enfin, du coup, je fais la version tempérée de ces flûtes traditionnelles.
D'accord.
Moi, j'aime beaucoup plus la version non tempérée.
Mais c'est plus simple pour les gens? d'avoir une version tempérée?
Moi, ils préfèrent, parce que du coup, ils peuvent jouer ensemble, ils peuvent jouer avec d'autres instruments. Mm-hmm. Et je leur dis toujours, mais conservez votre flûte traditionnelle, et c'est bien d'avoir les deux.
Et les flûtes traditionnelles qu'ont les gens, qui sont vraiment traditionnelles, non tempérées, elles sont anciennes, elles sont... Comment ça se passe? Il y a un héritage, une transmission
Oui, maintenant, il y a des facteurs aussi qui font des flûtes traditionnelles non tempérées, assez empiriques. Mais la tradition, c'était que dans chaque village, il y avait un berger qui faisait sa flûte, et c'était le musicien du village.
D'accord.
Donc, chacun faisait sa flûte, et elles étaient forcément toutes différentes, avec des tempéraments assez différents. Mmh.
Et tu as dit que tu utilisais du buis, donc, comme pour les flûtes à bec, mais tu utilises d'autres essences aussi. Comment ça
se passe ? Moi, j'utilise des bois locaux, on va dire. Enfin, je suis contre l'importation de bois exotiques. Donc, j'ai des essences qui poussent en France ou en Espagne, par exemple. Okay. Donc, il y a du prunier, de l'amandier, de l'abricotier, du cornouiller, du buis, bien sûr, des fruitiers.
Ok. Et une autre question que je voulais te poser, comment tu travailles avec les musiciens? Puisque tu me dis, ben, les gens, ils te commandent une flûte comme ci ou comme ça. Comment ça se passe?
Eh bien, quand j'ai une commande, j'essaye de demander à la personne qu'elle m'explique le caractère qu'elle veut de l'instrument. J'essaye aussi de regarder un petit peu, de voir comment est la personne, son caractère, enfin le caractère de la personne et ce qu'elle recherche dans l'instrument. Je demande si elle joue d'autres instruments pour voir si elle a besoin de plus de puissance, si elle souffle plus fort, si elle a plus de diaphragme.
Et au fur et à mesure que donc le musicien joue son instrument, la flûte évolue, c'est comme une flûte à bec. Tu les revois, tu les révises. Comment ça évolue une flûte traditionnelle par rapport
ça à... Ça évolue de la même
pareil,
manière, en fait.
C'est pareil.
Oui. Okay. Il y a des gens qui ne les renvoient jamais et qui ne les ramènent jamais.
Mm-hmm. Et toi, tu recommandes quand même de les
ramener? Moi, je les recommande de les ramener au bout d'un an. Ouais. Faire une révision, parce que le bouchon bouge. Enfin, c'est les mêmes paramètres qui bougent. Après, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, donc il faut avoir confiance qu'il y a des flûtes qui fonctionnent, qui sont en circulation.
Et du coup, comment évolue la lutherie des flûtes traditionnelles? Parce que tu me disais, maintenant, tu fais une version tempérée des flûtes qui sont plutôt non tempérées traditionnellement. C'est une évolution, c'est une adaptation. Qu'est-ce que c'est pour toi?
Oui, je crois que c'est une façon d'intégrer ces flûtes dans l'époque moderne. Parce que finalement, si tout le monde veut jouer tempéré, c'est normal qu'ils aient envie de jouer aussi, enfin, d'être à jour. Par exemple, en Andalousie, ils jouent avec des flûtes traditionnelles. Mais ils aiment beaucoup jouer avec des synthétiseurs ou des violons, enfin, des grands orchestres. Ils ont un style assez particulier.
Donc finalement, c'est un peu comme pour la flûte à bec, tu essayes de... Ben, c'est une adaptation. Comme tu disais, aux besoins
c'est
actuels.
C'est une interprétation de la tradition adaptée à l'époque moderne.
C'est une réinterprétation, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Une autre question que je voulais te poser, c'est celle, donc j'ai vu sur ton site, et puis je le savais aussi, que tu fais des flûtes de concert et des flûtes d'études. Alors ça, c'est toujours une grande question. Qu'est-ce que c'est une flûte d'études? Comment tu différencies?
C'est un grand mystère. Non, quand je fais plusieurs flûtes, celles qui sont vraiment très, très bonnes, je dis, bon, tu vas devenir une flûte de concert. Et je lui donne plus de temps, je travaille plus dessus, plusieurs semaines encore plus. Mm-hmm. Et après, j'aime bien aussi proposer des flûtes un peu moins chères, qui fonctionnent forcément aussi très bien, enfin, sinon je ne les vendrais pas, pour que les gens aient accès à des flûtes de facteurs, pour qu'ils aient envie de jouer plus. Enfin, je trouve ça important.
Oui.
Que les élèves puissent avoir l'opportunité d'acheter des flûtes intéressantes.
Mmh. Et la dénomination flûte d'études, flûte de concert, c'est...
C'est familial, j'ai appris ça avec mon père, enfin, il a toujours fait ça.
C'est vrai qu'il...
Et pour moi, c'est naturel.
C'est vrai qu'il faisait ça. Mais tes flûtes, tu as des machines où tu travailles essentiellement à la main? Parce que tu dis que tu fais une petite série...
Non, j'ai un tour à bois, j'ai un petit tour à métaux, mais... C'est tout à la main, enfin, tout le tournage à la main. Mais je veux dire, si je dois faire une alto 415, si j'ai une commande, j'en fais peut-être 4.
Oui.
Celle qui fonctionne le plus vite ou qui va le mieux, c'est celle que je finis. Du coup, après, il y en a encore 3 qui sont commencées.
Donc, en fait, tu donnes plus de temps simplement pour les flûtes qui vont être des flûtes de concert.
Oui.
OK. Peut-être pour finir, j'ai 5 petites questions courtes. Avec une réponse courte, quel est ton moment préféré quand tu fabriques une flûte?
J'ai plusieurs moments préférés.
Ah.
J'aime bien, quand on finit le tournage, enfin le premier tournage, découvrir le dessin du bois, la couleur, la fibre. C'est comme on passe d'un morceau de bois avec une écorce à un début d'objet qui change de personnalité, finalement.
Ça fait un.
J'aime bien aussi le moment où on souffle pour la première fois dans la flûte, quand on pense que ça va peut-être fonctionner.
Oui, j'aime
bien. C'est la grande surprise.
Et t'en as un troisième ?
Non.
Ok. Deux moments préférés. Est-ce que tu peux nous dire une chose qui a été difficile dans ton parcours, dans ton apprentissage, et une chose qui a été facile ?
Une chose qui est difficile et qui est encore difficile pour moi, c'est de décider que la flûte est finie.
Comment tu sais que la flûte est finie ?
Mais il faut accepter, il faut dire voilà, maintenant on la laisse comme ça et les gens vont être contents. Parce qu'on peut, enfin, on peut travailler sur une flûte une journée, le lendemain, et on ne sait jamais quand c'est fini en fait. On ne peut pas dire dans 3 semaines, ta flûte est finie. Parce que ça va peut-être durer 5 semaines. Et je trouve ça très difficile de décider, bon, ça y est,
c'est fini.
Et en général, je finis une flûte et je la laisse encore une semaine sans travailler dessus pour être complètement convaincue qu'elle est finie.
Et une chose qui était facile ou qui est facile ?
Ce que je trouve facile, finalement, c'est d'aller sur les salons, même si ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Parce que c'est quelque chose que j'ai commencé, enfin, depuis toute petite, je vais sur les salons avec mon père. Donc, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus naturel.
Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne flûte ?
Une bonne flûte, c'est une flûte qui va bien avec la personne qui l'a choisie. Parce qu'il y a des flûtes qui vont très bien, mais qui ne vont pas avec la personne qui est en train de jouer. Donc, une bonne flûte, c'est une flûte qui sonne au mieux de ses possibilités et qui a trouvé le musicien qui lui permet de sonner aussi bien.
Un bon conseil qu'on t'a donné ?
Un bon conseil de mon père, c'est ne fais jamais confiance au buis. Parce que le buis peut se tordre à n'importe quel moment de la vie, même s'il est très sec ou s'il a de longues années déjà qu'il est resté droit.
Et pour la suite, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps ? Est-ce que tu as des projets ?
Mais je pense que je vais continuer cette vie pour toujours, parce que les facteurs de flûte ne prennent jamais la retraite. Donc, il n'y a pas d'issue.
Pas d'issue, c'est le mot de la fin. Il n'y a pas d'issue. Merci beaucoup, Marie.
Merci à toi.
Et voilà pour cette conversation avec Marie Hulsens. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'une bonne flûte, au-delà de ses indispensables qualités de stabilité, homogénéité et justesse, c'est une flûte qui nous va, une flûte qui nous convient, une flûte qui nous plaît et sur laquelle on se sent bien ? Peut-être en avez-vous déjà fait l'expérience, et si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite pour très bientôt. Je vous invite à explorer le site web de Marie, qui y répertorie tous ses modèles et les flûtes traditionnelles qu'elle fabrique, ou encore à la visiter sur Facebook, où elle partage régulièrement des photos d'ateliers et ses actualités. Vous la croiserez aussi probablement sur différents salons au cours de l'année, où vous pourrez foncer découvrir ses instruments si vous ne les connaissez pas encore. Un grand merci encore, Marie, pour ta participation. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs flutophiles, d'être fidèles au rendez-vous de Bon Bec. Si le podcast vous plaît, dites-le-moi en laissant une note et ou un commentaire sur votre plateforme de podcast, en vous abonnant à la chaîne YouTube de Bon Bec. On ne le dira jamais assez, toutes ces petites actions comptent énormément pour la visibilité et pour le développement du podcast. Et un immense merci si vous l'avez déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner au mail de présentation que j'envoie chaque début du mois, ou encore vous inscrire à ma newsletter 3 minutes pour la flûte, qui vous donne un jeudi sur deux des infos, anecdotes et astuces sur la flûte à bec à lire en 3 minutes top chrono. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, vous pouvez parler de Bon Bec autour de vous et partager vos épisodes préférés, parce que les Bon Bec, c'est fait pour ça, pour être partagé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis Bon Bec et à très vite.